Bonjour Didier Pilon, en compagnie de Mathieu Ardonneau dans les studios de Radio Fidélité, pour que nous passions une petite heure ensemble autour d'un chef-d'œuvre absolu de la musique concertante. J'avoue que j'ai un peu hésité avant de vous présenter cette œuvre, non pas parce que j'en ai pas envie, au contraire, mais parce que c'est une œuvre qui est assez longue, elle fait 40 minutes et je vois pas comment on peut en supprimer un peu. Donc on va entendre aujourd'hui exclusivement dans son intégralité le fameux 5e concerto pour piano et orchestre de Beethoven qui est en mi bémol majeur et qui porte l'opus 73 et qui est connu sous une sorte de sous-titre qu'on appelle l'Empereur. Évidemment, le concerto n'a rien à voir avec Napoléon, mais il a été composé au moment du règne de celui-ci. Simplement, ce concerto d'ailleurs, au passage, j'en profite pour le dire, a été dédié à un personnage très important qui était l'archiduc Rodolphe d'Autriche. Rodolphe d'Autriche était un membre de la famille impériale et il avait vraiment eu beaucoup d'affection pour Beethoven. Et Beethoven, d'ailleurs, va écrire une messe pour son intronisation, puisque ce fils d'empereur deviendra archevêque, cardinal d'ailleurs, d'Autriche. C'est le cardinal Rodolphe, pour lequel, encore une fois, Beethoven avait une profonde amitié et va décider de lui consacrer ce concerto, en présence évidemment de l'archiduc en 1811, qui était une sorte finalement d'élève de Beethoven. Le 4e concerto est très beau aussi, il est dans une forme peut-être beaucoup plus, comment est-ce que je pourrais dire, plus intime. Mais le 5e concerto, là, on a vraiment la force de Beethoven, le génie de Beethoven, qui est finalement l'archétype de ce que seront les grands concertos pour piano et orchestre au 19e siècle. Beethoven va quand même continuer tout le travail qu'avait entrepris déjà Mozart. C'est-à-dire que ses premiers concertos sont, je dirais, relativement calmes et on est plus dans une sorte de dialogue entre le soliste et l'orchestre. Mais le 5e concerto, c'est une sorte de rupture où là, c'est véritablement le piano, je vais le dire vite, mais je le pense, qui est contre l'orchestre. Il ne joue plus avec, il joue contre. Et c'est ce qui donne justement ce dramatisme absolument incroyable, cette force, cette fougue qui correspond finalement à l'image que l'on va avoir après du romantisme, vous savez, où on a ces artistes qui sont seuls contre le monde, seuls contre tous. Et bien là, c'est pareil. Beethoven et le piano, ils sont seuls contre le monde, contre finalement l'orchestre. Malheureusement pour lui, Beethoven était déjà atteint de surdité et il n'a pas pu jouer lui-même ce concerto comme il en avait au départ l'envie. Ce concerto va être entendu pour la première fois, je vous l'ai dit, en novembre 1811. En Autriche, évidemment, alors que la composition date vraisemblablement des années 1808-1809. On sait que Beethoven aimait bien faire mûrir en quelque sorte ses partitions et il va mettre un certain temps avant de pouvoir le terminer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'armée de Napoléon était déjà arrivée aux abords de Vienne au mois de mai 1809, et ce qui explique que pendant les bombardements finalement et l'occupation française, eh bien Beethoven n'avait pas plus véritablement travaillé sur ce concerto. Au point d'ailleurs que dans une lettre de Ferdinand Ries, qui était un des élèves aussi favoris de Beethoven, avait écrit « Lors du court siège de Vienne par les Français en 1809, Beethoven eut grand peur. Il passa la plus grande partie du temps dans une cave chez son frère Caspar en se couvrant en outre la tête de coussin afin de ne pas entendre le canon. » Ce qui est corroboré d'ailleurs par Wegler, qui était un autre contemporain de Beethoven et qui disait « Le bruit terrible du canon ne pouvait-il pas aussi agir douloureusement sur les oreilles malades de Beethoven ?» C'est pour vous dire donc que Beethoven est véritablement pris d'angoisse en même temps et on sent finalement ce côté belliqueux dans ce concerto, cette opposition, je vous l'ai dit, très forte entre le soliste et l'orchestre. Et c'est ce qui va véritablement faire le modèle des concertos romantiques. Je pense à Chopin, je pense à Mendelssohn, je pense à Brahms, je pense à Schumann et Tchaïkovski et tous les autres, où on va avoir vraiment par moment une sorte d'opposition entre le soliste, entre le piano et l'orchestre. C'est une œuvre immense. C'est vraiment pour moi un chef-d'œuvre absolu de la musique classique et je suis justement heureux de vous le faire entendre. Alors le premier mouvement, vous allez vous en rendre compte, est très large, il dure plus de 20 minutes. C'est véritablement une entrée en matière très fracassante du piano avec des accords qui sont plaqués et puis l'orchestre qui reprend. C'est une œuvre qui a une, ce qu'on appelle une registration énorme. Hein. Il y a beaucoup d'instruments. Il fallait absolument, encore une fois, lutter, si je puis dire, contre la force du piano. Et c'est véritablement une œuvre, encore une fois, qui est pour moi tout à fait remarquable, tout à fait emblématique, et où on a changé véritablement de siècle. On est passé du 18e siècle de Mozart et de Haydn au 19e siècle romantique avec justement Beethoven. Beaucoup de compositeurs avaient adoré cette œuvre, et vous allez vous rendre compte, encore une fois, de la force, de la fougue de ce concerto pour piano et orchestre, dont nous allons tout de suite écouter une très belle version avec une pianiste que j'aime beaucoup, que j'ai eu la chance de rencontrer et d'entendre dans ses œuvres. Elle est décédée maintenant, c'était la très grande pianiste espagnole Alicia de la Rocha, qui était vraiment une grande spécialiste de Beethoven. On va retrouver un chef absolument dynamique en la personne de Ricardo Chailly avec l'orchestre symphonique de Berlin, et ça va nous donner, je trouve, une vision extrêmement brillante, extrêmement martiale, mais extrêmement romantique de ce concerto dont nous écoutons tout de suite le premier mouvement, un magnifique allegro que je vous propose de découvrir sans plus attendre.
Thank you.
d'entendre tous ensemble le premier mouvement, l'Allegro, de ce cinquième concerto pour piano et orchestre de Beethoven, dans la très très belle interprétation d'Alicia Della Rocha, de l'Orchestre Symphonique de Berlin, sous la direction de Ricardo Chailly. Et je vous propose maintenant d'en découvrir les deux autres mouvements. Pourquoi je dis les deux autres? Parce qu'ils s'enchaînent en quelque sorte. C'est un peu une tradition chez Beethoven. Le premier mouvement, encore une fois, est extrêmement vaste, important. Il fait souvent le tiers, voire la moitié, comme c'est le cas ici, de l'œuvre. Le premier mouvement, c'est vraiment quelque chose de très, très significatif. Et si bien que chez Beethoven, le deuxième mouvement, j'allais dire, hélas, est presque trop court. C'est un adagio, un peu mosso, qui fait, allez, on va dire, même pas 8 minutes, mais qui s'enchaîne, vous allez le voir. C'est pour ça que je vais pas interrompre la pensée musicale du compositeur avec un troisième mouvement qui est un allegro et qui est un rondo. Rondo, c'est aussi un moyen d'être fidèle à lui-même, parce que Beethoven, dans tous ses concertos, a choisi cette forme du rondo dans le dernier mouvement, qui est tout à fait intéressant, qui est encore une fois, avec ses rythmes pressés, impatients, eh bien donne quelque chose de tout à fait étonnant et j'allais dire d'enthousiasmant, finalement. Alors, il y a un grand débat sur lequel je ne me prononcerai pas pour savoir si, oui ou non, Beethoven a rencontré Mozart. Vous savez que Beethoven, quand il avait 16-17 ans, il était plus ou moins battu par son père alcoolique et un certain nombre de nobles protecteurs avaient décidé de l'exfiltrer, si je puis dire, de le faire partir à Vienne. Parce que à 17 ans, Beethoven rêvait d'une seule chose, c'est de devenir l'élève de Mozart. C'est pour ça qu'il y a quand même un peu un héritage de Mozart dans cette musique de Beethoven. Sauf que il ne se serait pas rencontré très longtemps, parce que Mozart, en 1787, devait repartir immédiatement pour Prague pour aller y créer son Don Giovanni. Et il y a une partie des musicologues qui disent non, ils n'ont pas eu le temps de se voir, et d'autres qui disent si, si. Il y en a même qui citent Mozart et qui disaient que lorsqu'il a entendu Beethoven, il a dit à toute l'assistance: écoutez bien ce jeune homme, il nous étonnera tous et il dira beaucoup de très belles choses. Alors ça, rêve ou réalité, je ne le sais pas, mais on voit bien que si c'est vrai, c'est une très belle histoire, parce que Mozart, finalement, aurait presque pu entendre ce concerto. Hein. Il date de 1809, ça veut dire que Mozart, qui était né en 1756, n'aurait eu, si je puis dire, que 53 ans lorsque Beethoven a composé cette œuvre, mais malheureusement, il était mort presque 20 ans plus tôt, hein, en 1791. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Ça, on n'en sait rien, mais en tout cas, il y a vraiment un héritage de Mozart, mais il y a également quelque chose de tout à fait nouveau dans ce qu'écrit Beethoven. Alors, vous savez qu'il y a dans les mouvements ce qu'on appelle des cadences, c'est-à-dire à la fin d'un mouvement important, ça peut être le premier, ça peut être le troisième, ça peut être le premier et le troisième, il y a une part où l'orchestre se tait et où le pianiste joue, ce qu'on appelle une cadence. Alors, très souvent, les grands compositeurs improvisaient les cadences. Et des élèves de Beethoven, notamment Ries, qui ont dit: maître, vous pourriez pas quand même écrire la cadence, qu'on puisse la jouer. Alors il y a de temps en temps des très grands pianistes qui osent faire leur propre cadence à la place de ce vide que laisse Beethoven ou de ce qu'il a écrit. Et puis d'autres qui préfèrent rester finalement dans la tradition classique. C'est un petit peu justement ce que fait Alicia Della Rocha, parce qu'on sait que Beethoven a griffonné un petit peu une partie de cadence pour ce cinquième concerto. Et c'est, je crois, un moyen, là encore, de rendre hommage à celui qui était au départ un grand improvisateur au piano, qui était justement, encore une fois, Beethoven. Donc tout de suite, je vous propose d'entendre, dans son intégralité, les deux derniers mouvements de ce concerto pour piano et orchestre qu'on a baptisé l'Empereur. Ça n'est pas le nom qu'a donné Beethoven, hein. C'est un surnom qu'on a donné après, parce qu'on s'est dit, oui, il ouvre finalement le 19e siècle, c'est le plus beau de ses concertos, c'est une œuvre absolument incroyable, hein, puisqu'elle dure plus de 40 minutes. Et donc nous allons entendre maintenant le très bel adagio, lent un peu, mélancolique quelque part, très beau, et puis qui s'enchaîne encore une fois avec ce rondo, cet allegro qui est tout à fait digne des plus belles partitions de Beethoven. Donc je vous propose d'écouter tout de suite ce deuxième et troisième mouvement du concerto pour piano et orchestre de Beethoven par Alicia Della Rocha, l'Orchestre Symphonique de Berlin, sous la direction de Ricardo Chailly. Thank you. Terminer cette émission sur Radio Fidélité, j'avoue qu'il me restait quelques minutes, mais je ne sais pas quoi mettre après ce magnifique chef-d'œuvre. J'aurais peur que les 5-6 minutes de musique qu'on écoute soient un peu éclipsées, donc je préfère m'arrêter là. Vous donner rendez-vous, bien sûr, dans d'autres émissions sur Radio Fidélité, en compagnie de Mathieu Ordonneau à la technique, et vous dire que nous avons donc pu entendre, au cours de cette heure, ce chef-d'œuvre absolu, comme on dit, de la musique concertante, ce concerto pour piano et orchestre de Beethoven, le numéro 5, qui est en mi bémol majeur, une très très belle tonalité, là encore triomphante, qui porte dans le catalogue des œuvres de Beethoven l'opus 73, interprété, je vous le rappelle, par la grande pianiste espagnole Alicia de la Rocha et le grand chef, ils sont malheureusement tous les deux disparus, Ricardo Chailly, qui est à la tête de l'orchestre symphonique de Berlin. Un moyen de nous souvenir que Beethoven reste certainement un des plus grands génies de la musique classique.